Le FFCP, cette année, c'était aussi 4 films événements. Alors le premier, on s'est demandé pourquoi c'était un événement, mais l'événement a eu lieu, il était complet. C'est I Can Speak. Nicolas, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, rapidement. Bah, en fait, c'est un film qui dévoile un peu ses mystères au fur et à mesure. Alors, à la base, en fait, c'est une vieille dame, un peu acariâtre, qui vit dans un voisinage qui est un peu mal vu de tous ses voisins, parce que on la présente un peu comme la mamie un peu moralisatrice qui va voir des gens pour leur dire qu'il y a un problème par là, un problème par-ci, qu'il faut le régler. Enfin, voilà, quoi. Elle arrête pas de se plaindre, des trucs comme ça.
Une mamie, quoi.
Une adjuma, ouais. Quoi.
Et du coup, elle dépose plusieurs plaintes au bureau de quartier à chaque fois que quelque chose va mal, et elle rencontre un nouvel employé qui est là-bas, qui au départ est un peu blasé de la voir débarquer tous les jours avec ses 150 bouts de papier avec des plaintes dessus, quoi. Et au fur et à mesure, une espèce de relation qui va se nouer entre les deux, où il va se rendre compte que cette femme, elle a une histoire assez tragique, puisqu'en fait, c'est une ancienne femme de réconfort, qui est un sujet très actuel en Corée en ce moment, puisqu'on est toujours en espèce de procès avec le Japon qui ne veut pas s'excuser.
Ah si, Shinzo Abe, il ne s'est pas excusé, en fait, comme ça.
Ils ne reconnaissent toujours pas vraiment.
Ils reconnaissent pas,
mais il a donné de l'argent.
Oui, mais il n'y a pas eu d'excuse publique.
Voilà, c'est ça.
Et donc,
le film est un peu construit comme ça, comme une vraie comédie au départ, avec cette mamie qui en plus, balance des punchlines toutes les 3 minutes, et donc c'est assez drôle.
Elle cloute. Pourquoi ça s'appelle I Can Speak?
Bah parce qu'elle peut parler, tu vois.
Parce qu'elle parle enfin.
Il y a un procès, enfin tu verras, si tu vois le film un jour, je veux pas tout spoiler non plus, mais voilà. Donc en gros, c'est un film qui joue énormément sur le côté comique au départ, et qui est vraiment très réussi dans cette partie-là. Vraiment, l'actrice qui joue la grand-mère, elle est vraiment extraordinaire. Enfin, elle a déclenché plusieurs rires juste par ses expressions et ses répliques. Et la relation qu'elle noue avec cet employé, nouvel employé en fait, qui vit avec son jeune frère et qui n'a pas trop le temps de s'en occuper parce qu'il est pris par son boulot, et donc il y a une relation entre les trois qui va se nouer, qui est assez touchante. Et après, la deuxième partie vire dans le pur mélodrame en fait, où elle est invitée à témoigner justement pour la cause des femmes de réconfort. Mais on met en doute son témoignage, et du coup il y a un procès une espèce de procès qui a lieu, et il y a tout des enjeux qui se développent par rapport à ça. Alors là, ça va à fond dans le larmoyant sur la fin.
Et à la fin, il se passe quoi?
Bah, je vais pas le dire, mais
je sais pas, t'as raconté tout le film, donc.
c'est assez rapide en fait.
C'est pas la peine de raconter la fin.
Non, je vais pas raconter la fin.
Ça pleurait dans la salle, quoi.
Oui, voilà, pour les deux Coréennes qui étaient à côté de moi.
Ouais, elles meurent.
Non, mais les deux Coréennes ne sont pas mortes, mais elles pleuraient dans la salle.
Après, c'est vrai que ça fond, c'est encore une fois une espèce de divertissement populaire.
Oui, mais est-ce qu'il y a un film où les Coréennes pleurent pas à la fin, genre? Ils pleurent dans
pas
tous
trop,
les films
non,
populaires.
En fait. Parce que même Taxi Driver, je
crois
qu'ils
pleurent. Ils pleuraient à la fin de Taxi Driver. Ils pleurent à la fin de Battleship Island.
Ils pleurent tout le temps, en fait.
Midnight Runner, il pleure aussi.
C'était bien,
ouais, non, moi j'ai bien aimé. Après, je trouve que ça va un peu trop dans le côté larmoyant à la fin. Mais au moins, la partie comédie est déjà très réussie. Vraiment, c'est super drôle. Et
pourquoi elle meurt surtout?
Et la deuxième partie, quand même assez réussie, assez passionnante, même si, encore une fois, il y a un côté très.
Mais juste pour le titre, I Can Speak, il n'y a pas une histoire d'apprentissage de l'anglais?
Oui, il y a ça. Ah, j'aime bien. Non, mais en fait, c'est justement. Ouais.
Le mec, il a pas vu le film, il l'explique.
En fait, non, parce que c'est
écrit dans le synopsis.
Mais oui, en gros, elle, justement, elle connaît pas l'anglais. En fait, à la base, elle a une amie qui est aussi une femme de réconfort, qui elle connaît l'anglais, mais qui est une maladie assez grave et qui va mourir, et qui a pas eu le temps justement de témoigner. Qui a pas eu le temps de témoigner par rapport à sa condition de femme de réconfort. Oui. Et elle, qui ne connaît pas l'anglais, va apprendre l'anglais à sa place pour aller témoigner dans ce procès.
C'est un film sur le langage.
Voilà. Et c'est un peu ça. Et du
c'est
coup,
en fait,
la relation qui se noue avec le jeune employé du bureau de quartier, c'est par rapport au fait qu'elle lui demande aussi de donner des cours d'anglais. Voilà.
Ah oui, quand même. Voilà.
Donc, mais en fait, tu parlais de quoi alors tout à l'heure?
Il a pas compris le cœur du film.
Mais si, mais il y a un côté subtil.
C'est pas ça non plus le cœur du film.
Non, mais c'est marrant, il y a des gags et tout, quoi.
Je parle.
Bon, on va. Je demande le silence.
En fait,
c'est
Jérémy
qui vous demande de vous arrêter.
Le mec, il voit pas de film, il fait chier tout le monde.
On va maintenant parler du deuxième événement du festival qui est The Fortress.
Putain,
je
merde.
Crois que.
Mais quel événement
Elvire, ouais. tu l'as vu.
Ouais, mais alors par contre, là, je vais vraiment m'aider parce que ça se déroule au 16e siècle. Je suis pas sûr, en fait.
Alors, c'est un peu comme le conseil des ministres.
Non, mais c'est sur la chaîne politique.
Tu veux résumer
un ordre de la
salle en plus. Quelques siècles avant.
En plus, c'est un peu ça, putain, il a raison. C'est la chaîne parlementaire.
Kefren, tu peux résumer The Fortress, s'il te plaît.
Donc, The Fortress, ça raconte l'histoire d'un royaume au nord de la Corée qui est sur le point de se faire envahir par un empire chinois mongol. Hein.
On sait pas trop, mais ouais.
Voilà.
Des Chinois avec des noms mongols.
Exactement. Et qui parlent pas... Bon, bref. Et donc, ils vont se faire envahir et tout le film... met en scène le dilemme que va subir le roi de ce royaume sur est-ce qu'il faut faire la guerre à ces gens qui arrivent ou est-ce qu'il faut se résigner et faire la paix. Et donc tout le film est un espèce de procédural comme ça sur le roi et ses ministres qui se demandent est-ce qu'il faut faire telle mesure, est-ce qu'il faut ne pas faire telle mesure. Et voilà.
Et c'est long et c'est deux heures.
Est-ce qu'on pleure à la fin ?
Non.
Si t'es un coréen ultra-nationaliste et tout, et que tu les vois se faire humilier
et
comme
tu
ça,
t'es pas endormi, peut-être que tu pleures. Mais... Non, c'est 2h20 de dialogue.
Oui. Pourquoi le film était classé dans les événements
parce qu'il y avait Lee Byung-hun.
Oui, il y a Lee Byung-hun et je crois qu'il a fait aussi un bon score.
Et le film est sorti il y a deux ou trois semaines en Corée, et du coup, c'était cool d'avoir une avant-première.
Parce qu'il a fait 4 millions en 3 semaines en Corée.
Et par contre, qu'est-ce qui se fait que ça. Parce qu'il y a des films comme ça, un peu politiques, où ça blablate tout le film et qui sont bons, comme le Lincoln de Spielberg, donc pourquoi là ça marche pas, pourquoi c'est pas bien.
Parce qu'en fait, Elvire a résumé et 2h20 du film. C'est vraiment, il y a un dilemme pendant le film qui dure 2h20 à résoudre et qui n'avance pas en fait.
C'est pas comme si il y avait une intrigue stratégique. C'est qu'à la fin du film, sauf au dénouement, mais 2 minutes avant la fin du film, t'en es au même point qu'au début.
Le primeur est comme un débat de la chaîne parlementaire.
En fait, il n'y a pas de péripétie dans le film, c'est le même dilemme qui se déploie à travers plusieurs... À plusieurs niveaux. Et genre, on te montre... Oui, telle mesure fait que les soldats sont pas bien, mais telle mesure fait que les soldats ne sont pas bien.
Parce que je dis ça, Lincoln, c'est ça aussi, quoi. C'est un débat, c'est une joute pendant deux heures.
Oui, mais Lincoln, on te montre ce qui sous-entend la mesure de Lincoln, ça veut dire toutes les manigances qu'il a dû faire, alors que là, il n'y a rien.
C'est du coréen du 17e siècle, donc c'est super pompeux, c'est super chiant, ils sont tous un peu les dents à genoux, en fait.
Mais par contre, le film a une très belle photographie.
Et les rares scènes d'action sont super bien, il n'y en a que deux ou trois.
Et ils ont de très beaux chapeaux.
Oui, aussi, oui.
Leurs chapeaux sont trop beaux, vraiment.
C'est
peut-être pas suffisant pour dire chapeau bas, mais...
Oh.
On va passer au film suivant.
On nous rappelle que c'est lui le patron, tu vois.
Les deux premiers événements, donc Captain Speak et The Fortress, qui sont assez oubliables. À l'inverse du troisième événement, VIP, Justin.
Oui.
Qu'est-ce que c'est VIP?
Oui, donc VIP, donc c'est donc un polar coréen. Donc pour résumer,
T'es sûr?
C'est un polar.
Il n'y a pas des Coréens.
En plus, c'est un polar plutôt international, en plus au niveau du...
C'est coréen ou quoi ?
Je me rattrape aux branches.
On va pas y arriver.
Donc c'est un polar...
En plus, Jérémy n'a rien dit là-dessus.
Donc c'est un polar qui s'ouvre donc sur une scène assez éprouvante, voilà, où on voit un jeune nanti, un serial killer en coréen, et ses sbires qui vont agresser une jeune fille, une jeune femme.
En Corée du Nord,
oui, tout à fait. Ça s'ouvre en Corée du Nord, donc avec un jeune nanti.
C'est super beau, la Corée du Nord, aussi.
Après ce point touriste. Et donc, voilà, oui, donc, ils vont enlever et puis agresser une jeune femme, donc en pleine rue, quasiment, enfin en pleine nature. Et donc, ils vont s'en sortir. et ils vont s'en sortir voilà, en toute impunité malgré l'enquête que va faire un militaire, enfin un soldat de la police militaire coréenne. Ils vont s'en sortir en toute impunité, et donc on a ensuite c'était ça, donc c'est une ouverture en flashback, et ensuite ça déroule de nos jours en Corée du Sud, où voilà, on a les policiers des différents personnages qui tournent autour à nouveau de ce personnage de serial killer qui a poursuivi ses crimes en émigrant en Corée du Sud. Et donc en fait ça va être une sorte de jeu voilà, de jeu
de track
autour de ce jeune homme qui en fait possède des informations qui intéressent à la fois le gouvernement américain qui cherche à le récupérer, et puis qui cherche les Chinois également, parce qu'il y a un numéro de compte, voilà, c'est toute une histoire, une sous-intrigue du film, les Chinois qui cherchent un numéro de compte chinois qu'ils possèdent. Donc les Américains cherchent à le récupérer, ils se servent des services secrets sud-coréens par cet intermédiaire pour le récupérer. Donc on a trois grands personnages, on a un policier qui lui cherche tout simplement à arrêter un serial killer, donc assez badass, assez drôle dans ses attitudes outrancières. On a un autre...
Toujours une cigarette.
Voilà, au coin du bec. On a un agent des services secrets donc sud-coréen qui essaie de récupérer pour les Américains ce serial killer, mais en même temps qu'il y a un conflit moral par rapport à ce personnage qui est assez monstrueux, quoi, de jeune serial killer. Et puis on a le fameux agent militaire donc nord-coréen qui va réapparaître à un moment donné du film, qui a poursuivi cette traque depuis plusieurs années, qu'on va apprendre qu'il a émigré en Corée du Sud simplement pour arrêter ce serial killer. Donc voilà, on a tout un jeu, une sorte de partie d'échec entre ces personnages pour s'approprier ce serial killer, soit pour l'arrêter tout simplement, soit pour le faire l'exfiltrer. Donc en même temps, il y a les Américains, on a un guest avec Peter Stormare également, qui joue une espèce d'Américain...
Dégueulasse.
Voilà, dégueulasse, immoral, tout ce
qu'on veut. Toujours un chewing-gum.
Donc assez immoral, assez imbu de lui-même également. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on a à la fois une partie, donc le côté vraiment hard-boiled avec le côté policier très poussé avec l'acteur qui joue le serial killer, qui est, c'est le Joker, quoi, vraiment.
Mais il est très beau.
Qui en fait des tonnes, qui est vraiment détestable, qui est vraiment... ça réveille le Charles Bronson qui sommeille en tout spectateur par rapport à ce qu'il peut faire, par rapport à ce qu'on a envie qu'il lui arrive, avec les horreurs, les atrocités qu'il commet. D'ailleurs, la scène d'ouverture, parce que finalement le film n'est pas si violent, mais la scène d'ouverture, voilà, où il commet son premier crime, est assez traumatisante, ce qui fait que toute évocation pendant le reste du film, on a ça en tête, et puis ça amplifie le côté monstrueux du personnage. Et parallèlement aussi, voilà, on a tout un... Ce personnage de serial killer représente aussi tout un côté corrompu, donc la société coréenne. Quoi qu'il fasse, vu les monstruosités qu'on le voit faire, voilà, du moment qu'il a ce statut de nanti et qu'il peut être utile à des plus hautes sphères, il s'en sortira quasiment toujours tout au long du film, malgré tous les efforts des personnages. Donc ça, bon, c'est fait avec des gros sabots, faut dire ce qui est, c'est pas très fin, mais dans le côté hard-boiled voilà du film, ça fonctionne bien, et puis ça dit pas mal de choses sur le côté la corruption inhérente à ce qu'on peut imaginer.
C'est vrai que ça rappelle un peu les vigilante movies des années 80, les hard-boiled comme ça, avec finalement des personnages qui sont extrêmes en termes de voilà les inspecteurs en termes de la manière dont ils peuvent agir face aux criminels, mais en même temps qui sont de bonne volonté, qui veulent faire leur travail, mais tu as une bureaucratie derrière qui est corrompue de manière systémique, et qui du coup fait que il y a une impunité totale de certains criminels.
Voilà, c'est des enjeux supérieurs qui empêchent la justice
par un Coréen du Nord donc d'avancer. Et quand tu disais que ça se passe au temps présent, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ça se passe entre 2008 et 2013, ouais. Et du coup les changements politiques qui ont lieu en Corée du Nord comme en Corée du Sud interviennent en fait dans les revirements des personnages à un moment où ils sont jugés en Corée du Nord, mais finalement non.
Notamment, sans spoiler, voilà, il y a un rebondissement final où on pense que tout est terminé. Et finalement, pas tant que ça par rapport à un changement politique en Corée du Nord.
Donc, ça, c'est assez intéressant en termes de construction du film et de discours, de jouer sur plusieurs, voilà, de plusieurs temporalités comme ça pour étayer ce discours.
Mais justement, on parlait de corruption, mais en fait, ça ne parle pas trop de corruption parce que c'est pas vraiment de la corruption, c'est un jeu de pouvoir entre les États-Unis qui sont implantés en Corée, enfin qui ont une influence en Corée, et la Corée du Nord qui elle aussi influe sur la Corée du Sud, et que la Corée du Sud se voit partagée entre ces deux pays qui ont leur propre volonté et qui manipulent même à leur encontre les Sud-Coréens.
Ouais, c'est pas tant de la corruption effectivement.
C'est plus un sentiment d'impunité, voilà, ouais, voilà des hautes sphères
qui vient de à la fois de la bureaucratie et à la fois des instances supérieures qui gouvernent tout ça.
Ben oui, dans le sens le film peut rappeler aussi les films hongkongais où justement il y avait aussi des problématiques similaires avec le fait qu'il y ait des étrangers qui viennent, qui interfèrent dans les histoires.
Mais même avant ça, quoi, l'ouverture en Corée du Nord, il n'y a pas d'étrangers ou quoi que ce soit, c'est le côté nanti, jeu de pouvoir, qui fait qu'il peut s'en sortir quoi qu'il arrive. Et ensuite, voilà, en Corée du Sud, il y a cette partie, ces intervenants américains, mais c'est, moi, je le sens, c'est l'impunité sociale, quoi.
Et ce qui est amusant, c'est que le film nous dit que ce soit aux États-Unis, en Corée du Sud ou en Corée du Nord, en fait, c'est la même chose. Ouais. Et il y a exactement l'impunité pour ces personnages qui sont un peu hors
et place, à Hong Kong aussi.
Et à Hong Kong, et qui représentent une certaine forme de, on parle de royauté, effectivement, de côté, voilà, par rapport aux personnages.
Et finalement, et là, le seul remède, c'est le vigilante, quoi, finalement, au bout du compte.
Ouais, ça, c'est le côté un peu réac du film, qui ressort sur la fin. Mais bon, c'est la justice individuelle qui est la seule à pouvoir triompher dans ce cas de figure, Elias.
Après, moi, je trouve que le problème du film en tant que tel, c'est qu'en fait, en commençant par une scène aussi, aussi violente, qui est franchement une scène qui est vraiment, vraiment hardcore, donc la première scène de meurtre.
Il y a deux introductions. La première, on est à Hong Kong, et c'est une scène d'action. Et la deuxième, c'est une scène de torture porn.
La scène torture porn qui est vraiment... Enfin, les deux, en fait. Je trouve que l'enchaînement scène d'action, scène de torture porn, en fait, te vend vraiment un film qui n'est pas ce qu'il suit pendant 2 heures. En soi, c'est pas dérangeant, parce que je trouve que ce qui suit marche bien dans le genre. Je trouve que les 2 heures qui suivent marchent bien dans le genre, etc. Il y a vraiment une très grande... Une trop grande, en fait... rupture stylistique, je trouve, enfin, ou du moins de genre, entre le début du film et la suite du film.
Ah, c'est vrai qu'il y a des dialogues qui sont vraiment, enfin, les scènes de dialogue sont vraiment très très longues parfois, et je pense que j'aurais pu raccourcir à ce moment-là. Alors, c'est vrai que c'est là où se développent tous les enjeux un peu psychologiques et entre les différents personnages et les différents pays. Mais je trouve que c'est trop long par rapport à
moi je trouve que c'est toujours utile par
c'est
exemple,
utile mais c'est
par non, exemple c'est on a le personnage du bureaucrate à lunettes voilà on a ça arrive comme rien du tout au détour d'un dialogue on apprend que c'est un homme de terrain au final alors que bon pendant tout le film on l'a vu en costard en lunettes et sans être plus actif que cela. Et finalement, il s'avère que, sans en dire plus, qu'il c'est plutôt... Voilà, il y a un dialogue qui révèle que c'est un homme de terrain à l'origine avant d'être un bureaucrate. Et ça, c'est pas inutile à savoir par rapport à ce qui va se dérouler
ensuite.
Après,
t'as l'introduction.
Oui, mais je pense qu'on s'en souvient pas.
Ouais,
je me souviens de l'intro et j'ai même pas su que c'était le même personnage. Quoi.
Ouais.
C'est tout.
C'est tout sur VIP. Bon, bah, donc c'est,
Mais en tout cas, un bon polar, un bon polar et thriller d'espionnage plutôt badass.
Et un bon thriller d'espionnage.
International.
Ça fait courir.
Peter Stormer.
Faut pas l'oublier.
Quatrième événement, c'est Midnight Runners. Jérémy, je crois que c'est un des deux films que tu as vu cette année. Est-ce que tu veux nous en parler?
Ouais. Je dois le résumer.
Mais tu voulais pas le résumer, c'est vrai. Elvire, est-ce que. Avant que Jérémy donne son point de vue.
Résume le professionnel.
Donc, c'est deux jeunes recrues en formation à l'école de police qui deviennent amis au fur et à mesure, en fait, du film et qui, lors d'une permission d'un soir, en fait, où ils sortent pour draguer la Coréenne en mode de nuit, assistent en fait au kidnapping d'une fille dans la rue. Et là, bah, ils vont se transformer en flics accomplis, alors qu'ils sont juste en formation, en fait, pour essayer de savoir où est-ce qu'elle a disparu, qui l'a enlevé, et voilà.
Et c'est super drôle.
Tu l'as bien résumé. Hein.
Ouais,
oui. Du coup, est-ce qu'ils courent à minuit?
Oui.
Jérémy, du coup,
là. Ouais. Alors, c'est un gentil buddy movie qui il ment pas sur la marchandise, c'est vraiment la comédie populaire, comédie policière populaire où il y a un enchaînement de, ça se passe sur une petite période, donc une nuit. Et il y a un peu plus après. Mais... C'est pas grave, on s'en fout. Et donc, c'est vraiment un enchaînement de séquences plus ou moins drôles, plus ou moins bien troussées entre la comédie et le thriller pur. Plus le film va, moins c'est drôle quand même.
Plus tu vas dans le glauque, c'est
voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, il y a...
Mais il reste quand même quelque chose de...
Une hausse exponentielle de très drôle
dans la relation entre les deux, quand même. Même quand ils sont au plus mal,
il y a en tout cas une bonne dynamique entre les deux personnages principaux, et les deux acteurs sont très bons, très drôles. Il y a des scènes toutes simples où, par exemple, j'ai en tête, où il regarde le mec en train de manger ses nouilles, et il a faim, et il fait des têtes pas possibles.
Le deuxième acteur, il a des expressions...
C'est super drôle. Après, j'ai pas trouvé non plus que ça sort pas des sentiers battus. C'est très attendu. On s'ennuie pas. Voilà, c'est un vrai bon film populaire où on est content d'être dans la salle. Et on se marre bien pendant 2 heures, mais c'est assez mineur, quoi. C'est assez mineur pour le coup. J'ai trouvé ça assez mineur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Moi, je trouve que dans son style, ça cherche pas à renouveler quoi que ce soit, mais dans son style, je trouve que c'est vraiment très très efficace. Et ça fait longtemps en fait que j'avais pas vu un espèce de buddy movie. Il y en a eu qui sont sortis aux États-Unis, par exemple, il y a eu le Hitman Bodyguard que t'avais pas du tout aimé, je crois.
Il y a eu l'excellent Shane Black.
Qui était pas mal.
Bah oui, mais il y avait super bien.
Mais j'étais un peu déçu quand même par le film.
Ah bon?
Ouais, moi même. Mais au-delà de ça, je trouve que Midnight Runners... Ah, il y a un côté Buddy Movie.
On va revenir à Midnight Runners.
Donc, Midnight Runners, je trouve qu'il réussit toutes les choses qu'il entreprend, quoi, à tous les niveaux. Et il arrive quand même, à travers la comédie policière populaire, à parler de... Encore une fois, c'est pas original, mais des thèmes qui touchent en ce moment la Corée du Sud. Par rapport au système policier, à la justice...
En ce moment ou depuis 20 ans?
Ouais, depuis 20 ans, mais là ça revient vraiment au bout du jour, parce que
t'as bien vu... C'est dans chaque film.
Les trois quarts des films présentés...
Mais c'est dans tous les films, c'est la même chose.
Mais là, mais je trouve, en fait, ça reste en toile de fond, donc c'est pas très approfondi, mais je trouve qu'il y a quand même, par quelques petites répliques ou quelques petites scènes, des choses bien vues.
Oui, mais c'est tellement grossier que c'est vraiment fait pour les... C'est vraiment fait pour les beaufs qui regardent devant leur truc et disent putain, ça dénonce Bébert et tout. C'est vraiment
non,
tout...
je sais pas, ça,
honnêtement, c'est ça. C'est des trucs vraiment grossiers avec des personnages vraiment dessinés à la truelle qui te disent moi je suis méchant, je suis un bureaucrate méchant et tu vas voir.
Il y avait juste à la fin.
Ou l'autre, j'exploite les filles, je vole leurs ovules.
Non, mais ça,
méchant.
C'est le côté skinner avec le gros boss méchant. Ça va pas très loin, on est d'accord, mais ça suit un pro. Ça,
et voilà, c'est, ça pour, rester dans, c'est pour rester dans les blockbusters actuels, j'ai beaucoup pensé à Tunnel, qui a exactement la même critique à la truelle. Là, c'était les médias dans Tunnel, et là, c'est vraiment les policiers, la bureaucratie.
Il y a le côté un peu grossier au premier plan, genre ils sont livrés à eux-mêmes, personne ne veut, il n'y a pas assez de preuves, tant qu'il n'y aura pas assez de preuves, personne ne va rien faire, et les filles, elles se démerdent eux-mêmes.
Mais c'est pas de la critique sociale, non. Ça, c'est des ressorts scénaristiques.
Mais c'est
du
d'autres choses dans
quoi.
Le film, en fait, par exemple, quand juste une phrase comme ça, leur professeur à la fin qui dit. Quand les autres professeurs, les autres veulent les sanctionner parce qu'ils ont un peu enfreint toutes les lois pour mener leur enquête à terme, il y a le professeur qui leur dit est-ce que à la base le policier, bon c'est un peu neuneux si tu veux, mais est-ce que à la base être policier c'est d'abord sauver les gens plutôt que de penser à avoir des récompenses ou
c'est super neuneux ça.
Non mais c'est neuneux, mais la manière dont c'est tourné c'est plutôt.
Non mais après c'est un film très réussi, mais là-dessus il y a rien d'incroyable.
En termes de mise en scène, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent quand même.
C'est pas juste un super bon moment. Moi j'ai passé un super
c'est quand
bon
même assez
moment
efficace,
dans le film.
Non mais c'est super efficace, mais il y a pas.
Transformé en film qui dénonce quelque chose.
Même dans la gestion du comique et tout.
Oui, non, mais en termes de mise en scène pure,
ça va pas te faire un truc très approfondi ou.
Mais par exemple, il essaie de te faire quand même un petit truc à la Hellboy, un moment où il se bastonne en travelling et tout ça, mais bon, c'est du déjà vu.
Ouais, mais
c'est vraiment un film un peu. C'est agréable, mais c'est vraiment un film pantouflard où t'es bien dans ton truc, tu regardes et tu dis ah putain, c'est un bon buddy movie, ça m'éclate.
Par contre, sur le comique, pour une fois quand même, c'est un film comique coréen.
Quand même.
Qui nous fait rire. Parce qu'il y a plein de films comiques qui ne font absolument pas rire.
C'est intéressant ça.
Là tu tiens quelque chose.
Non mais l'humour coréen est très particulier.
Non mais je sais.
Une fois sur deux ça marche pas. Et là-dessus, ça, moi j'ai rigolé, il n'y avait pas de problème. Mais c'est assez rare le film coréen qui
parce que je pense que c'est un genre qu'on connaît bien ici. c'est une structure qu'on connaît bien, oui, voilà, parce que ça. Le cinéma coréen, quoi, le blockbuster coréen s'inspire de plus en plus du cinéma américain.
Tout à fait, donc c'est du comique américain, voilà, qu'on maîtrise en fait. Le comique purement coréen, putain, il est pas drôle. Hein.
Donc nous on se sent bien là-dedans parce que c'est des drôle, structures qu'on connaît, quoi.
Ah ouais, des fois. Tu tapes un handicapé, c'est drôle.
Bah, des fois, ouais. Oui.
Des fois,
un touchant, ça aurait été cool si Cluzet s'était fait taper, quoi.
C'est un film.
Ouais, pour un
film, t'as un handicapé, un trisote, et ce que tu veux, mais t'as toujours un qui s'en prend plein la gueule dans un film coréen.
Alors, on a fait le tour des films événementiels qui finalement étaient un peu en demi-teinte cette année. Mais on va attaquer la section paysage, on va voir s'il y avait des belles surprises.